Bonjour à toutes et à tous. De nouveau ensemble pour notre émission « Je suis venue vous lire » sur JTFM, une émission avec les moyens du bord. Donc, excusez-nous, peut-être sur les petits sons ou les problèmes de bruit. Mais on a tenu quand même, avec Michel, à maintenir nos émissions. Donc, aujourd'hui, nous vous proposons de faire un voyage dans les grandes villes, tout autour de la planète. Si nous ne pouvons pas y aller, nous pouvons toujours, avec la radio, rêver d'y être.
Dans ma ville, on traîne entre le béton, les plaines, dans les rues pavées du centre, autour des magasins fermes. On passe les week-ends dans les zones industrielles, près des zones pavillonnaires où les baraques sont les mêmes. Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue. J'peux pas la quitter, pourtant j'passe mon temps à cracher dessus. Parler du beau temps serait mal regarder le ciel. Je la déteste autant que je l'aime, sûrement parce qu'on est pareil. On a traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades, traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades.
Des toits qui semblent se perdre à l'infini. Une rumeur qui s'installe, des bruits qui se faufilent et s'amplifient, des odeurs, des rues, des places, des fontaines. C'est la ville, la grande ville, grouillante et toujours en ébullition. Alors si on partait le temps d'une émission à la découverte de ces grandes villes, de ces métropoles ou de ces mégalopoles incroyables, saisir pour un instant un fragment de plaisir, de beauté, de mystère. Autant de coups de foudre qui incitent au rêve, au voyage, à l'aventure. Juste le temps de se laisser surprendre au hasard d'une rue ou d'une rencontre. C'est avec bonheur que j'entre à Grenade. Grenade ne s'est jamais livrée facilement, et pas davantage aujourd'hui qu'hier. Il faut l'apprivoiser dans une lente approche. Une fois parvenu à l'intérieur de ses murs, prendre de l'altitude, absolument nécessaire. Déjà sur les hauteurs parviennent les rumeurs, et on peut se laisser porter au hasard et être à l'écoute des mille bruits du quotidien ou de la fête. Mais ici ou là, l'eau se fait entendre, celle des deux rivières, le Daro et le Genil. L'une pleure et l'autre saigne, disait Garcia Lorca. Et comment ne pas être imprégné par les senteurs qui tout à coup captivent, odeur forte des cierges accumulées devant les statues les plus vénérées, odeur âcre du brasero que l'on prépare à l'extérieur de la maison. Odeur subtile des herbes et des épices étalées sur le trottoir de la cathédrale. Odeur appétissante des petits marchés à l'air libre de la Calderería, l'une des plus jolies rues commerçantes de Grenade. Odeur enivrante des arbres et des fleurs, cyprès et myrte, géranium et magnolia, d'œillets et jasmin, qui jalonnent et embaument les jardins des maisons modestes comme ceux des palais. Grenade est un parfum. Grenade est inépuisable. Mille parcours peuvent être empruntés. Plaisir des sens, Grenade est propice à la création littéraire. Picturale, musicale, elle est une intarissable source d'inspiration. Tout séjour à Grenade doit prendre fin à la Plaza de Bambi Rambla, dont le nom veut dire « place de la porte du lit de la rivière ». Elle est le carrefour de tous les itinéraires. Bibaramba a toujours été le lieu de grandes confluences, de grandes liturgies, de grands spectacles. D'ailleurs, la pièce de Garcia Lorca, consacrée à Mariana Pineda, situe le décor du prologue « Plaza Bibaramba ». Et d'où vient ce sortilège qui fait dire à Victor Hugo « Grenade efface toutes ses rivales ». On y vient au printemps, on y retourne à l'automne, et on y séjourne même au cœur de l'hiver. À chaque retour, cette ville a toujours quelque chose de particulier à offrir. Une ruelle à explorer qui nous avait échappé, un rio à longer, une terrasse nouvelle où s'installer. Cette ville tient du miracle, ainsi posée sur l'eau, ce qui lui donne ce charme fou et la rend unique au monde. Venise, c'est Venise bien sûr, tant célébrée, chantée, représentée par des peintres, des écrivains, des poètes, de toutes les époques et de tous les pays. La magie de Venise, sa lumière, les agencements de couleurs, sa mélancolie, ses palais grandioses et délabrés. La première fois que l'on se rend à Venise, il faut y arriver par la mer. Qu'importe si le circuit est long, il permet d'appréhender l'essence même de cette ville, née d'une centaine d'îlots épars, réunis grâce à des efforts humains d'une incroyable ingéniosité. Au fur et à mesure que le bateau se rapproche, on devine dans le lointain, le cœur battant, la haute silhouette du campanile et le palais des doges de la place Saint-Marc, centre de Venise depuis le XIe siècle. Venise, cette sérénissime, est en effet une ville unique, unique par son histoire, sa localisation, ses fortunes et ses revers, mais unique aussi par son côté intemporel, dont le tracé n'a pas changé depuis des siècles. Elle tient du miracle, ainsi posée sur l'eau, une eau qui lui donne ce caractère si extraordinaire, mais aussi une eau qui envahit, qui attaque la pierre, qui monte inexorablement en raison du réchauffement climatique. Les Vénitiens en ont vu d'autres. La naissance de la ville s'est faite sur la conquête des marais, puis en enfonçant dans la lagune des millions de pieux de chêne et de mélèze, qui résistent vaillamment à l'usure du temps. Tous les services se font sur l'eau, les taxis, les pompiers, les ambulances, les pompes funèbres, chacun a ses signes distinctifs, et ce ne sont pas les centaines de Vaporetti et de Mostocafi qui sillonnent inlassablement le Grand Canal, ses abords et la lagune qui contrediront cette image. Forte et fragile, resplendissante d'or et couverte de moisissures, la cité des Georges est tout en contraste, une dualité qui lui donne ce charme fou. Dans un même quartier se côtoient des palais rénovés qui brillent des mille feux, de la pierre et du marbre dont ils sont recouverts, et d'autres dont la décrépitude est telle que l'on ignore comment ils ne se sont pas encore affaissés dans ces anciens marais. Même en y revenant sans cesse, il n'est pas sûr qu'un jour on finisse par faire le tour des somptuosités que recèle cette ville. Le contraste est tout aussi fort entre le jour et la nuit. Le jour, si l'on cherche à profiter sans entrave de Venise, il faut tenter d'éviter des lieux où les touristes se pressent par vagues ininterrompues. La place Saint-Marc et ses abords, le pont de Rialto et le pont du Soupir, où les Vénitiens qui marchent vite, la tête légèrement penchée en avant, tendent à grand refort de permesso, excusez-moi, de se frayer un passage. Aujourd'hui, le tourisme de masse a pris le dessus. C'est 21 millions de touristes pour 58 millions d'habitants. Le premier chiffre n'arrête pas de grimper, le second de baisser. Qu'arrivera-t-il à Venise si un jour elle est condamnée à n'être plus qu'une vitrine, un musée? On n'ose pas y penser. Mais Venise résiste encore. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Espérons que jamais elle devienne une chimère.
Dans Venise la Rouge, pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau, pas un falot. Seul, assis à la grève, le grand lion soulève sur l'horizon serein son pied d'airain. Autour de lui, par groupes, navires et chaloupes, pareils à des ronds couchés en rond, dorment sur l'eau qui fume et croisent dans la brume en léger tourbillon leur pavillon. La lune qui s'efface couvre son front qui passe d'un nuage étoilé, demi-voilé. Ainsi la dame abaisse de sainte croix, rabaisse sa cape au large pli sur son surplis. Et les palais antiques, et les graves portiques, et les blancs escaliers des chevaliers, et les ponts et les rues, et les mornes statues, et le golfe mouvant qui tremble au vent. Tout se tait, fort les gardes aux longues hallebardes qui veillent au créneau des arsenaux. Ah, maintenant plus d'une attend au clair de lune quelques jeunes muguets, l'oreille au guet. Pour le bal qu'on prépare, plus d'une qui se pare, met devant son miroir le masque noir. Sur sa couche embaumée, la vanina pâmée presse encore son amant en s'endormant. Et Narcissa la folle, au fond de sa gondole, s'oublie en un festin jusqu'au matin. Et qui, dans l'Italie, n'a son grain de folie, qui ne garde aux amours ses plus beaux jours. Laissons la vieille horloge au palais du vieux doge lui compter de ses nuits les longs ennuis. Comptons plutôt, ma belle, sur ta bouche rebelle, tant de baisers donnés ou pardonnés. Comptons plutôt tes charmes, comptons les douces larmes qu'à nos yeux a coûté la volupté.
Sur les murs de la ville était écrit « La vie a une fin, mais jamais le chemin ». La voilà donc cette ville dont je rêvais à 19 ans, à travers les innombrables écrivains français, Nerval en tête, qui la décrivent. La voilà donc cette vieille cantatrice couverte de gloire et de bijoux, je la regarde par ma fenêtre, encore une qui refuse qu'on lui parle de son âge et de son passé. Elle est toute jeune, elle a changé de nom, elle débute. Ainsi écrivait Jean Cocteau en découvrant Istanbul. Istanbul s'étend sur les rives asiatiques et européennes du Bosphore, qui sépare l'Asie de l'Europe et relie la mer Noire à la mer de Marmara. C'est la seule ville au monde située à cheval sur 2 continents. Il existe 3 très grands ponts suspendus qui relient la rive européenne et la rive asiatique d'Istanbul, mais aussi des ferries qui font l'aller-retour toute la journée. Alors, à ne pas rater, la gare d'Edarpasa, l'une des plus belles gares du monde. Alors c'est vrai que les monuments sont nombreux à Istanbul. Toutefois, il faut absolument aller vérifier si la tour de Léandre, construite en 408 avant Jésus-Christ sur une petite île du Bosphore, est toujours là, toujours présente. Il faut aussi, évidemment, aller voir tous ces monuments, sans oublier la basilique Sainte-Sophie, la mosquée bleue, le palais de Topkapi, le grand bazar. Plus au nord, vous trouverez le quartier de Kuzguncuk. C'est un petit quartier de maisons en bois, de toutes les couleurs, situé dans une vallée entourée de forêts. Kuzguncuk vous transporte dans un univers où le temps semble s'être arrêté. C'est aussi un des rares endroits du monde dans lequel vous pourrez trouver des mosquées à côté d'églises et de synagogues. Istanbul, c'est les bateaux et leurs sirènes, les coupoles et les minarets qui se détachent sur le ciel rouge d'un soir, l'appel des muezzines, les jardins du palais à la pointe de la ville. Istanbul, c'est les odeurs de poissons grillés, de kebab et de pistaches, de thé et de salepes, d'olives, d'épices et de raki les soirs de fête. Istanbul, c'est le chant d'une clarinette, la mélopée d'un sas et les rythmes d'une darbouka. Alors, on ne pouvait parler de musique et parler d'Istanbul sans rendre hommage à la chanteuse Elin Bolek, morte après 288 jours de grève de la faim, le 3 avril 2020, à l'âge de 28 ans. Avec son groupe Yorum, elle et son groupe participaient à de nombreux concerts dans le cadre de grèves, de manifestations, d'occupations d'usines ou d'universités. Le groupe a fait face à de nombreuses arrestations, gardes à vue, prisons et interdiction de se produire, vu au sens contestataire de leur musique. Elin Bolek chantait en turc, bien sûr, mais aussi en kurde, en arabe ou en circassien, militant ainsi pour le droit à l'usage de ces diverses langues. Une pensée émue à ce jour pour ses amis, sa famille et ses camarades de lutte. Istanbul, c'est aussi ses poètes, comme Nazit Hikmet. Voici un de ses textes sur Istanbul. Je me suis aperçu de la chose après avoir déménagé dans cette mansarde. Mes fenêtres sont à la hauteur des arcs du second étage de la tour de Galata, avec ses mers, ses toits, ses rues, ses montagnes, ses navires et ses bois, je regarde Istanbul de très haut, à vol d'oiseau, comme une carte en relief pour enfants. Je vais vous dire ce dont je viens de m'apercevoir. Selon le temps qu'il fait, Istanbul devient parfois une peinture à l'huile, parfois une aquarelle, parfois un pastel, parfois un fusain. Je ne dis pas cela pour faire une image poétique, et je ne sais si les autres villes sont semblables. Mais par exemple, hier, Istanbul était un tableau au fusain, dans un décor de temps bouché, gris. Toutes les couleurs s'étaient transformées en noir et blanc. Tandis qu'il y a 3 jours, Istanbul était pareil à une carte postale, mal imprimée, reproduisant une mauvaise peinture à l'huile, dans une atmosphère de coucher de soleil enflammé, barbouillé de couleurs, faite par un peintre du dimanche. Istanbul, le soir, devient un pastel. On travaille les pastels sur papier gris velouté, et le moindre contact les efface. Les soirs de clair de lune à Istanbul, surtout vers les rives de Ouchkoudar, on lit des refaites au pastel sur papier gris velouté. Je ne suis pas peintre, j'aurais voulu l'être, mais depuis que j'ai déménagé dans cette mansarde, l'envie d'être peintre a pris pour moi la forme d'une nostalgie.
Güneyi can, güneyi can.
Sortant de 40 ans de mauvais rêves, Prague se retrouve. 1000 ans d'histoire où elle fut capitale d'un royaume, la Bohême-Moravie, d'une province de l'Empire austro-hongrois et plus tard de l'Empire soviétique, mais aussi d'une république heureuse, la Tchécoslovaque, fondée en 1918 et brutalement perdue 20 ans plus tard par les accords de Munich. Prague est la ville de toutes les métamorphoses, cité romane, gothique et reine du baroque. Tous les arts s'y sont illustrés. De la musique à la philosophie, Prague a ses peintres, ses pianistes, ses poètes, le don des langues. Prague est la capitale secrète de l'Europe. Prague, la ville aux 100 tours. Il y a longtemps, très longtemps maintenant, marcher dans Prague, c'était respirer. On ne le croirait pas. Marcher dans les rues de Prague, c'était prendre l'air. Non pas qu'il y soit tellement bon, probablement plus pollué que celui de toute autre ville d'Europe, bon, Athènes exceptée. Mais tout de même, prendre l'air, sortir d'appartements trop petits et trop enfumés, parler plus librement qu'on aurait pu le faire sous des plafonds peut-être truffés d'écouteurs, marcher pour oublier la peur, la tristesse, la grisaille et l'ennui. Guetter au début du printemps le surgissement sur les îles des premiers bourgeons de saule, dans la douce brume bleue qui monte du fleuve et vient frôler l'ocre noirci des palais. En ce temps-là, c'était hier, c'est pas si vieux, le temps, à Prague, semblait endormi, confondu avec celui des pierres, sculptées en statues, façonnées en façades, étagées en arcades, en frontons et en toits, dans un ordre où la chronologie s'égare selon des renversements, des juxtapositions incongrues. Façade Renaissance et palais baroque, et dominant tout, les tours médiévales allemandes, gothiques, pointues, mêlées au cuivre verdi des coupoles. Prague était bien comme Rome, mais sans sa gaieté. Comme elle, une ville multiple, une ville feuilletée où l'invisible se mêle au visible, une ville qui se déchiffre comme on lit un livre, une ville où l'histoire s'étage dans les successions imprévues des architectures. Mais une ville interdite, muette, silencieuse, malgré le fracas de ses tramways. Prague se taisait. Dans la beauté de ses ocres, sa lie et la brume qui monte de son fleuve, Prague était comme le décor d'un forfait dont seules les pierres ont été les témoins. Quelque chose s'y dissimulait, qu'on sentait et qu'on ne pouvait nommer. Un silence planait à chaque carrefour, sous toutes les arcades, dans les passages de la vieille ville, fait de lassitude et de peur. Quelque chose s'abattait sur vous et ne vous lâchait plus, qui n'était pas dû seulement à la sévérité des palais, à la puissance des statues, à la majesté des eaux grondantes du fleuve. C'était une ville qui complote ou chuchote, lance des messages indirects, des allusions cryptées. Et cependant, marcher dans Prague, tous ces temps-là, c'était une espèce de fête secrète, invisible, car c'était aller retrouver quelqu'un dont on n'ose pas porter sur soi l'adresse, aller retrouver un ami à qui l'on a, au téléphone, donné un rendez-vous codé. Et dans les rues, ou dans les tramways, ou dans les parcs, au cimetière de Žižkov, ou sur le site de la Montagne Blanche. Avoir rendez-vous avec un philosophe d'appartement, un acteur interdit de scène, un romancier chauffagiste, un poète laveur de carreaux, un historien tractoriste. C'est avec eux, toujours, que j'ai marché dans Prague occupée, et j'ai passé avec eux plus d'heures dans les rues que dans les cafés, dans les parcs que dans les appartements. Ce sont eux qui m'ont fait voir et connaître Prague, dans la joie de se retrouver, la hâte de s'entendre, le mélange des langues et la tristesse de devoir se quitter. C'est en marchant avec eux, en parlant avec eux, que j'ai vu Prague, telle qu'il me semble qu'elle est vraiment. Chaque monument, chaque carrefour, chaque façade, chaque aile qui monte et s'envole d'une statue noircie, fait comme un signet, un marque-page dans les cours ininterrompus de nos conversations. J'y pense ce soir. Nous sommes le 29 novembre 1989, en me rendant au théâtre pour l'une de ces rencontres quotidiennes du public avec les autres. Seront-ils là, mes amis, les philosophes laveurs de carreaux, les poètes chauffagistes ou veilleurs de nuit au musée national? Une brume tient la ville. Elle ne s'est pas levée depuis ce matin où nous avons regardé longtemps, les mains durcies par le métal gelé des rambardes. Quelque chose quand même assez surprenant, quelle chose surprenante, impensable ici que cette foule qui paie sa place et donne sagement ses manteaux aux vestiaires et parle fort dans la fumée épaisse des cigarettes. Mais tout cela, mes amis, que je ne vois pas ce soir au théâtre, qui sont ailleurs, ou peut-être chez eux, n'est-ce pas, à cause d'eux que tous aujourd'hui sont là. À qui d'autre que le doit-on ? À qui d'autre doit-on la mémoire des noms et la trace d'une pensée interdite ? Sans aucun doute, à eux. Cette ville est une vieille dame. Elle est âgée de 276 ans. Toutefois, elle a changé plusieurs fois de nom, rebaptisée Petrograd en 1914 jusqu'en 1924, puis Leningrad de 1924 à 1991, avant de retrouver son nom d'origine, son nom de jeune fille, on pourrait dire. C'est la belle Saint-Pétersbourg. Plus le thermomètre descend, plus la ville paraît abstraite. Moins 25. Ce n'est déjà pas mal, mais la température continue à tomber. Et comme si elle avait déjà réglé leur compte aux hommes, aux fleuves et aux édifices, elle vise les idées, les concepts abstraits. Avec leur fumée blanche qui flotte sur les toits, les immeubles des quais ressemblent de plus en plus à un train arrêté, en partance pour l'éternité. Dans les parcs et les jardins publics, les arbres évoquent des poumons tels qu'on les figure dans les manuels scolaires, avec leurs noires cavernes de leurs nids de corbeaux. Et toujours, au loin, l'aiguille dorée de l'amirauté, qui tente, tel un rayon inversé, d'anesthésier le contenu des nuages. L'on ne saurait dire qui, sur une toile de fond, paraît plus incongru. Les petites gens d'aujourd'hui ou leurs puissants maîtres, qui filent dans leur limousine noire, bourrés de garde-corps. Parler de malaise pour les uns comme pour les autres serait ici un euphémisme. À 8 heures du matin, les tramways, les trolleybus, les autobus, bondés, brinquent-ballent sur les ponts innombrables, transportant des grappes humaines vers leurs usines et bureaux. La politique du logement a changé, et la concentration a fait place à de nouveaux ensembles construits à la périphérie de la ville, dans ce style universel surnommé communément le baraco. Alors il faut mettre à l'actif des édiles actuels d'avoir laissé le centre pratiquement intact. Point de gratte-ciel ici, ni d'échangeurs de voies express. La Russie a des raisons architecturales d'être reconnaissante au rideau de fer, car il l'a aidé à préserver, malgré tout, son identité visuelle. La population se distrait dans une centaine de cinémas et une douzaine de théâtres, d'opéras et de ballets. Il y a aussi 2 énormes stades de football, et la ville possède 2 équipes de football et 1 de hockey, et toutes 3 professionnelles. Ce qui est très important, c'est la poésie. La poésie et la prose russe. La prose est lue et relue. La poésie apprise par cœur, ne serait-ce que parce que dans les écoles soviétiques, les enfants y sont obligés s'ils veulent obtenir le diplôme. Cet apprentissage scolaire garantit le statut actuel de la ville et sa place future, du moins tant que la langue russe existe et fait des écoliers soviétiques des Russes.
лица белится, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Не буду с милым я знакома, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. Знаю, в один вечер все спою. Ой, Дуся, ой, Маруся, в один вечер все спою. Ой, Дуся, ой, Маруся, в один вечер все спою. В каждой песне по три слова, дорогой, тебя люблю. Ой, Дуся, ой, Маруся, дорогой, тебя люблю. Ой, Дуся, ой, Маруся, дорогой, тебя люблю.
Il y a la ville, il y a la mégapole et il y a la mégalopole, la ville gigantesque. Avec ses 11 millions d'habitants, Séoul est la capitale de la Corée depuis plus de 600 ans. C'est un curieux mélange de modernité et de tradition. C'est une ville grouillante et toujours en ébullition. Alors,
승객 여러분, 서울 인천 국제공항에 오신 걸 환영합니다. 현재 오후 2시 40분이며 서울은 맑고 지상 온도는 화씨 77도, 섭씨 24도입니다. 즐겁고 유쾌한 여행이 되셨기를 바라며 저희 승무원들은 손님 여러분들과의 또 다른 만남을 기대하며 한결같은 정성을 다하겠습니다.
Il est 14h40. 고맙습니다. La température extérieure est de 24 degrés. À Séoul, il faut absolument y rester plusieurs jours pour avoir une introduction à la culture coréenne. Séoul offre une possibilité infinie de distractions, de festivals, de musées, de galeries d'art, d'universités, de monuments ultra-modernes qui contrastent avec des temples, des palais aux noms très exotiques pour nous Européens, comme par exemple le palais du bonheur radieux, le palais de la longévité vertueuse, le palais de la félicité radieuse. Bien sûr, une ville aussi gigantesque présente des désagréments, mais pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Si les embouteillages à Séoul sont légendaires, il y a de nombreux moyens d'y échapper, grâce à son excellent métro et à ses bus. La pollution de l'air y est très forte, comme celle du niveau sonore. La ville est fatigante, comme dans toute grande ville, mais il y a à l'intérieur de Séoul de magnifiques montagnes où on peut s'échapper pour prendre l'air, et même se baigner dans des torrents. À noter aussi une chose surprenante pour une telle cité, eh bien la criminalité y est encore très faible. C'est certainement l'un des endroits les plus sûrs de la planète. Séoul apparaît au premier abord comme une ville de béton et d'acier, de voies express surélevées et de ponts gigantesques. Apparemment tout un univers inhumain qui contraste avec nos capitales européennes. Mais il y a à Séoul, en contrepartie, beaucoup de charmes cachés. À ne pas manquer entre autres, le village folklorique de Namsan. C'est un parc aménagé où coulait autrefois un torrent et où des grues bleues avaient l'habitude de venir en été. D'où son nom de Changtan, le quartier des grues bleues. Cet endroit aussi, appelé Faerie, avait la réputation d'être l'un des 5 plus beaux de Séoul. Prenons le métro maintenant, ligne 3, et arrêtons-nous à la station Dongmimun Station pour visiter le quartier de Muakdong. Remontez l'avenue vers le nord, puis prendre une ruelle sur la droite et remontez la rue en pente jusqu'en haut et passez large sur la gauche. Il y a un plan de quartier un peu plus haut. Le quartier de Muakdong est l'un des moins connus et pourtant l'un des plus intéressants de Séoul. Sur ses hauteurs se dresse un complexe de pseudo-temples bouddhiques qui en fait sont des sanctuaires chamanistes. Accrochés à la montagne le long d'un petit torrent, ils sont richement décorés et le plus souvent situés dans des maisons d'architecture traditionnelle. Pour profiter pleinement de votre séjour, voici quelques conseils à connaître. Saluez en vous courbant légèrement, marque de respect pour votre interlocuteur. Tâchez aussi de maîtriser quelques formules de politesse en coréen, particulièrement appréciées dans un pays où la pratique des langues étrangères reste très limitée. Enlevez vos chaussures quand vous entrez chez quelqu'un, ou même dans certains lieux publics et restaurants. Le port de chaussettes est préférable, évitez d'être piétons. Alors, surtout ne pas faire. Évitez de manifester de l'impatience ou de la colère en public. Évitez de trop vous montrer familier en public. Les Coréens sont en général des gens très pudiques. Et surtout, évitez de porter des tenues sales ou peu présentables. Les Coréens attachent une grande importance à l'apparence physique. Parfois, au-delà des gratte-ciels, le cri d'un remorqueur vous surprend dans votre insomnie. Et vous vous souvenez alors que ce désert de fer et de ciment est une île, écrivait Albert Camus. New York est une ville où on ne trouve pas facilement la paix. La nuit, c'est comme si vous entendiez crépiter des milliers de cerveaux, disait David Bowie. New York fascine, New York la démente, New York la ténébreuse. En tout temps, de nombreux poètes ont déclaré leur flamme à la ville qui ne dort jamais. New York, grande inspiratrice, d'étonnantes images poétiques. Seigneur, l'aube a glissé froide comme un suaire et a mis tout à nu les gratte-ciels dans les airs. Déjà un bruit immense retentit sur la ville, déjà les trains bondissent, grondent et défilent, les métropolitains roulent et tonnent sous terre, les ponts sont secoués par les chemins de fer. La cité tremble, des cris, du feu et des fumées, des sirènes à vapeur rôdent comme des huées. Une foule enfiévrée par les sueurs de l'or se bouscule et s'engouffre dans de longs corridors. Trouble dans le fouillis empanaché des toits, le soleil, c'est votre face souillée par les crachats. C'est un extrait de New York, de Blaise Cendrars. New York, d'abord j'ai été confondue par ta beauté. Ces grandes filles d'or aux jambes longues, si timides d'abord devant tes yeux de métal bleu, ton sourire de givre, si timide, et l'angoisse au fond des rues à gratte-ciel, levant des yeux de chouette parmi l'éclipse du soleil. Sulfureuse ta lumière et les flux livides dont les têtes foudroient le ciel. Les gratte-ciels qui défient les cyclones sur leurs muscles d'acier et leurs peaux patinées de pierre. Mais 15 jours sur les trottoirs chauves de Manhattan, c'est au bout de la 3e semaine que vous saisit la fièvre, en un bon jaguar, 15 jours sans un puits ni pâturage. Pas un mot tendre en l'absence de lèvres, rien que des cœurs artificiels payés en monnaie forte. Nuit d'insomnie, ô nuit de Manhattan, si agitée de feux follets, tandis que les klaxons hurlent des heures vides. J'ai vu Harlem, bourdonnant de bruit, de couleurs solennelles et d'odeurs flamboyantes. J'ai vu se préparer la fête de la nuit à la fuite du jour. C'est l'heure pure où dans les rues germe la vie d'avant-mémoire. J'ai vu le long des trottoirs, des ruisseaux de rhum blanc, des ruisseaux de lait noir dans le brouillard bleu des cigares. Écoute, New York, écoute ta voix mâle de cuivre, ta voix vibrante de hautbois, l'angoisse bouchée de tes larmes tombées en gros caillots de sang. Écoute, au loin, battre ton cœur nocturne, rythme et sang du tam-tam. New York, je dis New York, laisse affluer le sang noir dans ton sang. Qu'il dérouille tes articulations d'acier comme une huile de vie. Qu'il donne à tes ponts la courbe des croupes et la souplesse des lianes. Voici revenir les temps très anciens, l'unité retrouvée, la réconciliation du lieu, du taureau et de l'arbre. Voilà tes fleuves bruissants de caïmans, musqués et de lamantins aux yeux de mirage, et nul besoin d'inventer les sirènes. Mais il suffit d'ouvrir les yeux à l'arc-en-ciel d'avril et les oreilles, surtout les oreilles. Les oreilles à Dieu qui, d'un rire de saxophone, créa le ciel et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il dormit du grand sommeil nègre. Ce texte est de Léopold Sédar Senghor. Extrait du recueil Éthiopique à New York.
Disco. But before we hit the street, oh, 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 oh. of glory of the newest club is opening up. The newest club is opening up. The newest club is opening up.
Sans parler d'elle. Tout a été dit, écrit, chanté sur cette ville. Sur Paris, bien sûr. Paris, ce chapelet de village, avec ses squares, ses places, ses églises, ses ponts. Victor Hugo, en 1883, envoya une lettre, une supplique, au président du conseil municipal de Paris. « Monsieur le président, il n'est pas possible que Paris, la ville de l'avenir, renonce à la preuve vivante qu'elle a été la ville du passé. » Le passé amène l'avenir. Les arènes sont l'antique marque de la grande ville. Elles sont un monument unique. Le conseil municipal qui les détruirait, se détruirait en quelque sorte lui-même. Conservez les arènes de Lutèce, conservez-les à tout prix. Construites au 1er siècle, ces arènes sont un amphithéâtre gallo-romain et elles sont toujours là, préservées, dans le 5e arrondissement, dans le quartier latin sur la rive gauche. Métro Jussieu ou place Monge. L'entrée se trouve au numéro 49 de la rue Monge. Alors, merci monsieur Hugo. Respirer Paris, cela conserve l'âme. Paris n'est pas une ville, c'est un pays. Être parisien, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître. À Paris, j'ai sous les yeux les 5000 hectares du monde. Paris a inspiré beaucoup de poètes, qui se sont bien sûr armés de leurs plumes pour lui rendre hommage. Alors, en voici un que vous allez certainement reconnaître. Enfant de la haute ville, fille des bas quartiers, le dimanche vous promène dans la rue de la Paix. Le quartier est désert, les magasins fermés, mais sous le ciel gris souris, la ville est un peu verte derrière les grilles des Tuileries. Et vous dansez sans le savoir, vous dansez en marchant sur les trottoirs cirés, et vous lancez la mode sans même vous en douter, un manteau de fou rire sur vos robes imprimées, et vos robes imprimées sur le velours potelé de vos corps amoureux, tout nouveau, tout doré. Folle enfant de la haute ville, ravissante fille des bas quartiers, modèle impossible à copier, cover girl, colored girl, de la Goutte d'Or ou de Belleville, de Grenelle ou de Bagnolet. Jacques Prévert.
Tougher than leather, smoother than silk. When I take a coffee, I don't want no milk. Paris rocking, yeah, now Paris rocking, yeah. Paris rocking, yeah, now Paris rocking, yeah. Loving you whether winter or spring. When I come to see you, flowers I bring. In a city of lights, you can't be uptight. Paris rocking, yeah, now Paris rocking, yeah. Paris rocking, yeah, now Paris rocking, yeah.
Paris, c'est le café sans lait, le café noir, celui qui te plaît, hein. Paris rusé, caillé planqué, caillé cailleuse et caillé, Paris huppé, décalé, fauché, ancré, laqué, cramé, usé, baisé, 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 casé, salé, sucré, Paris masqué, musé, muselé, marqué, fléqué, plaqué, au taquet, tiqué, stressé, métissé, snob et sophistiqué, défiguré, vidé, Paris la crise, m'amuse, la tise, la ruse, la rue et la sinueuse, la silencieuse, l'orgueilleuse, la truquée, traquée, plingue, trinquée, vieille, vieille, flétrie, l'ennemi, l'ami, chéri, meurtri, méprisé, libéré, blindé, blasé, Paris la triste, l'autiste, l'égoïste, Paris en piste, Paris qui sent la pisse, Paris la gueularde, la criarde, traîtresse, princesse, Paris paré, paré, dépassé, affairé, la fardé, braqué, maquillé, massé, plastiqué, touristé, libertaire, libertine, libéré, aliéné, aimé, détesté, quitté, retrouvé, Paris, succès, pollué, crié, décrié, critiqué, jugé, décrié, évité, Paris qui danse, Paris qui pleure, Paris qui crie, qui meurt, Paris la pierre, Paris qui perd, Paris la fière, Paris l'enfer, Paris ma sœur, Paris mon frère, Paris ma meilleure ennemie, Paris qui craque, Paris qui craque, Paris qui rock, Paris le bloc, Paris qui tapine, Paris la sublime, Paris la salope, qui rappe, qui se tape, Paris qu'on troque, Paris qu'on traque, Paris son zinc, son amertume, son bitume, Paris qui fume, l'on tremble dans l'enfer, les croissants.
Notre émission touche à sa fin, mais nous ne nous quittons pas tout de suite, parce que nous avons le coup de cœur de Michel.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, mon coup de cœur sera un coup de cœur particulier. C'est un coup de cœur en soutien à la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie qui a eu lieu le 17 mai. Un peu tardif le soutien, mais les vieux motards que j'aimais. Alors dans une petite ville, un jeune garçon, face à l'incompréhension et à l'hostilité de sa famille, décide de prendre un train et d'essayer de vivre et d'assumer son homosexualité ailleurs. Small Town Boy, Bronze Kibit.
Jeudi prochain, à la technique et à la programmation musicale Michel Yordanov, à la lecture et à la réalisation Corinne Tardieu. Vous pouvez réécouter notre émission en podcast sur www.jet-asso.fr. Bonne écoute sur Jet FM. Prenez soin de vous.
Et voilà, c'est fini. Hein? Eh? C'est fini. Eh oui.